Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde est bien installé. Donc bienvenue pour ce premier café scientifique de l'année 2012. Vous avez bien fait de venir, il faut profiter, hein. Il en reste peu avant la fin du monde, paraît-il. Donc avec la question, cette question, l'éducation, source de nos violences. Alors lors du dernier café scientifique d'année passée, on se posait la question de la sanction pénale, je ne sais pas si vous étiez présent, et Olivier Gagnat, le chef de la police jurassienne, qui ne doit pas être très très copain avec Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il disait que certains individus sont fondamentalement mauvais, qui ne sont pas destinés à être bons et que c'est comme ça. Et ben, en 2011, donc la sanction, en 2012, on va en quelque sorte remonter aux racines du mal, de nos violences, en se demandant si ce n'est pas l'éducation qui en serait responsable. Alors, je ne suis pas sûr qu'on se situe là dans le débat qu'on entend généralement, hein, sur le laxisme en matière d'éducation, encore que, mais peut-être plutôt à l'autre bout de l'échelle, à l'autre extrême, en quelque sorte là, où il y a un trop-plein d'éducation, une éducation peut-être trop stricte, mais en tout cas une façon d'éduquer. Et je pense que c'est là l'originalité d'une des thèses qu'on va entendre, c'est-à-dire, est-ce que l'éducation que nous donnons à nos enfants n'est pas en quelque sorte, disons, le produit de l'intériorisation du système judiciaire répressif, autrement dit, pour prendre un raccourci un peu provocateur, est-ce que c'est pas tout simplement la faute à notre système judiciaire? Alors, existe-t-il un droit de correction? Quel est l'impact de la violence sur l'enfant? Où sont les limites? Une éducation sans violence est-elle possible? Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre. Alors voilà, je vais laisser les intervenants se présenter en leur demandant bien préciser s'ils ont oui ou non des enfants. Je sais pas si. Qui veut commencer?
Bien, bien. Alors, on me donne la parole. Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Estelle Deluze. J'ai fait une thèse de doctorat sur le sujet donc, des punitions corporelles, et notamment sous l'angle du bien de l'enfant en droit. Donc, dans ma thèse, ce que j'ai essayé de faire, c'est parce qu'on parle beaucoup du droit de correction, c'est une notion qui existe, que tout le monde a plus ou moins une petite idée sur le sujet, son idée personnelle. Et ce que j'ai souhaité faire, c'était essayer de voir en droit, finalement, est-ce qu'on peut apporter, grâce aux règles juridiques, à leur interprétation, une définition ou au moins un contour à cette notion de droit de correction. Donc, pour ce faire, je me suis penchée donc, dans le droit civil et dans le droit pénal, depuis l'entrée en vigueur donc, du code civil et du code pénal jusqu'à nos jours, pour voir en fait quelle a été l'évolution finalement de cette notion de droit de correction, parce qu'il faut savoir que c'est une notion qui existait dans le code civil lors de son entrée en vigueur. Quelle a été l'évolution de cette notion donc, dans le droit civil et dans le droit pénal? Comment est-ce que les atteintes physiques ou autres à l'enfant ont été réprimées par le droit pénal? Donc, voilà l'étude que j'ai menée en droit sous la direction donc, du professeur Sandeau et du professeur Kuhn. Et ma position est de dire que actuellement, donc, la notion de droit de correction n'existe plus dans le code civil. Hein, c'est un terme qui a disparu, mais c'est un terme du code civil, mais c'est un terme qui est encore reconnu dans la jurisprudence notamment, et qui est utilisé encore parfois par la jurisprudence. Et c'est un droit qui est reconnu encore par certains auteurs. Et ma position est de dire que, donc en droit pénal, à mon sens, en tout cas pour tout ce qui est des violences physiques, donc si on parle de voies de fait, de lésions corporelles, le droit de correction, si on admet qu'il existe, ne doit pas pouvoir couvrir une atteinte donc causée à l'enfant, c'est-à-dire que le droit de correction ne doit pas servir de motif justificatif pour lever l'illicéité de l'atteinte qui est causée par des voies de fait ou des lésions corporelles. Voilà. Et je n'ai pas d'enfant pour répondre à la question.
Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme l'a dit madame Deluze, j'étais avec le professeur Kuhn, directeur de sa thèse du côté du droit civil. Une thèse extrêmement intéressante, je tiens à le dire, bien que nous n'ayons pas toujours exactement la même manière de concevoir les choses. Moi, sur l'angle juridique, d'ailleurs, que précisément sous l'angle de la portée du droit de correction. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas partisane de la violence à l'égard des enfants, mais que comme mère et grand-mère, il m'arrive de considérer que jusqu'à un certain âge, une petite fessée n'est pas forcément la plus mauvaise manière d'éduquer l'enfant. Je tiens à dire une petite fessée. Hein. Et, il s'agit donc d'une voie de fait, hein, si on veut être très terre à terre. Par conséquent, c'est un point sur lequel, mais je le mets en évidence parce que nous n'avons jamais eu de vraies divergences, mais c'est un point sur lequel nous ne sommes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, Madame Deluze et moi-même.
Voilà, bonsoir. Ça fonctionne. Oui, bonsoir. Donc, je remercie en tout cas les organisateurs de ce café scientifique de m'avoir convié. Donc, mon nom est René Knuzel, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire ici. J'ai comme fonction, entre autres, d'assurer la direction d'un observatoire qui s'intitule l'Observatoire sur la maltraitance envers les enfants. Donc, je représente évidemment cette institution. Une manière aussi de réfléchir, bien sûr, à la manière dont nous prenons en compte la violence à l'égard des enfants, en particulier dans la famille, mais pas uniquement. La maltraitance, évidemment, c'est aussi quelque chose de plus large que la correction, le droit de correction à l'intérieur d'une famille. Et donc, nous prenons en compte toutes les formes de maltraitance. Elles sont beaucoup plus larges que ce qu'on imagine habituellement, ce que Mme Sandeau a rapidement dit comme une petite fessée. Dans le fond, la maltraitance est celle qui s'exerce probablement le plus souvent à l'égard des enfants, dans les familles en particulier, ne prend pas nécessairement la forme d'une fessée, mais bien d'autres formes, notamment des violences psychiques ou psychologiques, tout simplement. Je précise également que de formation, je suis politologue, j'ai rien à voir ici, mais par contre, que j'ai travaillé sur l'État social, et que donc j'ai aussi également une formation en sociologie. Et donc c'est comme sociologue aussi que je serai appelé à intervenir et peut-être à poser aussi un certain nombre de questions, interroger ce qu'est précisément la violence ou ce que sont les formes de violence dans lesquelles on entre dans notre société en matière, parfois pas du tout. Il y a des formes de violence que notre société admet de façon très courante.
Est-ce que tu as des enfants ?
Oui, j'en ai trois.
Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est André Kuhn, j'enseigne la criminologie et le droit pénal à l'université de Neuchâtel. Et vu cette position, je vais essayer de répondre ou essayer de me poser la question de savoir si les violences éducatives que nous infligeons à nos enfants aujourd'hui ne sont pas propres à finalement créer les personnes violentes de demain. Puisque ce que nous apprenons à nos enfants en leur donnant une petite fessée, par exemple, c'est la loi du plus fort, c'est qu'il faut être le plus fort pour s'en sortir dans la société. Et ce mode de résolution des conflits qui veut qu'on soit le plus fort pour s'en sortir, c'est effectivement un mode de résolution de conflits qui fonctionne. Hein. Il y a plein de guerres qui fonctionnent selon cette idéologie-là, mais on peut aussi résoudre ces conflits de manière plus amiable. Et plus un enfant aura de modes de résolution de conflits dans sa tête, plus il arrivera à résoudre ses problèmes ou ces conflits avec d'autres de manière autre que par l'intermédiaire de la violence. Donc en fait, l'idée est que la violence faite à nos enfants génère la violence chez ces enfants-là.
Suzette Sandeau, je ne sais pas ce que, puisque vous semblez défendre parfois la petite fessée, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là ?
Alors écoutez, je n'ai pas l'impression d'être un fauteur de guerre. Et je n'ai pas l'impression que ni ma fille, ni mes petits-enfants au stade actuel, que je n'ai d'ailleurs pas souvenir, eux, mes petits-enfants, d'avoir fessé. Hein. Mais vous direz que comme grand-mère, on a un autre rôle à jouer, c'est d'ailleurs délicieux. Je vous le recommande. Hein. Ma fille a en effet reçu une ou deux fessées, et c'est vraiment pas un fauteur de guerre non plus. Elle vient de faire encore de la théologie, elle s'occupe de la résolution de conflits éventuellement pour des adultes. Donc je n'ai pas l'impression, vous voyez, d'être l'exemple vivant du cas dans lequel la petite fessée, qui n'est pas donnée au-delà d'un certain âge, est forcément à l'origine de la violence que l'on peut trouver dans la société. Mais ça, c'est juste pour répondre avec un... Tu vois l'idée, André, hein, c'est pas du tout pour te foncer dedans. C'est juste parce que je crois qu'il faut qu'on pose peut-être des limites, qu'on pose des définitions et qu'on voit dans quelle mesure il y a véritablement violence ou bien il y a ce qui parfois est appelé, excusez-moi, l'électrochoc du pauvre, c'est-à-dire une petite fessée.
Question peut-être un petit peu naïve, mais que dit la loi à propos de la petite fessée? Je pose la question à celle de Luz.
Alors la loi, donc, comme je disais, dans le Code civil, il n'y a plus maintenant, depuis la modification donc de 1978 quand même, il n'y a plus de droit de correction qui est prévu pour les pères et mères, ce qui était le cas avant. Donc c'est plutôt sous l'angle du droit pénal qu'on doit regarder ça. Et sous l'angle du droit pénal... À partir du moment, donc c'est les voies de fait, hein, à partir du moment où c'est commis à réitérer reprise, c'est poursuivi d'office. Et si c'est, donc on peut imaginer par exemple des fessées commises à réitérer reprise sur un enfant par son parent par exemple, ça sera poursuivi d'office. Mais si c'est une fessée isolée, alors là il faudrait qu'il y ait un dépôt de plainte pour qu'une procédure pénale puisse s'engager.
Suzette Sandeau évoquait la question des limites. Alors, je vous pose la question, René Knuzel, selon vous, où sont les limites, même si la question est un peu large?
Alors, évidemment, c'est une question de fond qu'on pose d'entrée. Quelles sont les limites à l'utilisation, au recours de la violence à l'égard des enfants? Alors, cette question, on doit d'abord y répondre en essayant de comprendre ce qu'est la violence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes formes de violence. Et donc les violences physiques, sans parler des abus, par exemple sexuels, qui sont manifestement des violences totalement inacceptables, et ça c'est largement partagé dans la société, les violences physiques aujourd'hui monopolisent l'attention. Il y a, dans les conséquences de ces violences physiques, André Kuhn l'a dit, des éléments sur lesquels on pourra revenir, probablement dans le fond, ce qu'on appelle en sociologie une sorte de reproduction des comportements avec des risques effectivement de commettre chez l'enfant un certain nombre d'infliger à l'enfant des marques suffisamment importantes pour qu'il ait recours à la violence comme forme de résolution de tensions ou de conflits. Mais encore une fois, la limite des violences, elle ne s'arrête pas aux violences physiques. Et on a, et vous le savez très bien, on le voit parce que, notamment aujourd'hui, on a pris conscience des violences qui s'exercent au sein des familles. Par exemple, entre conjoints, ces violences sont des faits relativement fréquents. Et ces violences qui s'exercent entre conjoints sont des violences aussi indirectes, par exemple, sur l'enfant. Ce sont des violences qui peuvent... s'affirmer des parents, même sans le vouloir, en direction des enfants. Donc, encore une fois, les violences psychologiques sont probablement beaucoup plus nombreuses, mais beaucoup plus difficiles à détecter. Alors, de quelle limite parle-t-on et de quelle violence parle-t-on? Et là, on doit admettre aussi, et j'aimerais, sans étendre trop le débat, dire que nous sommes quand même dans une société assez paradoxale, dans la mesure où on tolère quand même un certain nombre de violences. Regardez tout de même la production cinématographique, la télévision, les scènes qu'on a dans la rue de façon générale. Nous avons une violence quand même assez forte qui est en tout cas produite dans notre société, même si elle n'est mise qu'en partie en scène. Donc tout ceci doit probablement être au départ posé pour essayer de répondre à votre question en disant quelles sont les limites de l'utilisation du recours à la violence. Alors, je crois que Mme Deluz a dit une chose importante. À partir de la loi, la violence ne peut, ne doit jamais être un moyen pédagogique, un moyen éducatif. Je crois que ça, c'est clair. La loi le dit. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile à sanctionner. Je passerai immédiatement la parole après cette intervention à André Kuhn. C'est plus difficile à sanctionner, n'empêche... Que là, on a directement une limite qui doit intervenir pour dénoncer, évidemment, ce type de situation. Est-ce que c'est l'auteur? pense difficilement que ça peut être lui, parce que c'est la victime, on voit bien, si ce sont des petits-enfants, on ne voit pas très bien comment ça peut s'exercer. Ce sont des voisins, on voit les risques que ça peut comporter. Hein. Un cri dans une famille, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un enfant qui est battu? Comment est-ce qu'on construit la preuve qu'il y a effectivement violence, le fait d'avoir des comportements culturels différents, le fait d'élever la voix, est-ce que c'est de la violence? Le fait de s'emporter contre son enfant, le fait de le résoudre à rien en lui disant, ben dans le fond, tu n'es qu'un bon à rien, on entend ça dans la rue. Est-ce que ça, ce n'est pas des formes plus violentes que la petite fessée dont on parlait tout à l'heure? Ce sont vraiment des questions qu'on doit se poser avant d'avoir un jugement définitif établi sur l'utilisation, le recours à la violence.
Alors André Kuhn.
Alors, si je vais me positionner par rapport à la violence, il va de soi que je partirai de l'idée que aucune violence n'est jamais tolérable vis-à-vis d'un enfant, comme vis-à-vis d'un adulte d'ailleurs, et que la sanction, qu'elle soit verbale, physique, la sanction, ce n'est rien d'autre, pour celui qui l'inflige, cette sanction, ce n'est rien d'autre que le fait de vouloir récupérer l'autorité. Il a perdu son autorité, il veut récupérer l'autorité, et donc, lorsqu'on sanctionne, on le fait pour soi-même, et on ne le fait pas pour le bien de l'autre, pour essayer de faire en sorte qu'il évolue mieux, etc. Si on veut que quelqu'un évolue correctement, ce sera d'autant plus facile avec un enfant, il s'agira d'expliquer les choses et non pas de les lui imposer par l'intermédiaire de sanctions. Et un enfant est tout à fait capable de comprendre toute une série d'éléments lorsqu'on prend le temps de les lui expliquer. Alors, j'ai oublié de mentionner qu'effectivement, j'ai aussi deux enfants. C'est vrai que ça a été plus facile de maintenir cette position avec le premier que lorsqu'on a le deuxième qui arrive. Parce qu'évidemment, à un moment donné, on se sent un tout petit peu dépassé par les événements. Et je dois tout à fait avouer qu'il nous est arrivé, à ma femme et à moi, d'élever la voix à l'encontre de nos enfants. Alors qu'on en était malheureux après coup, puisque nous sommes persuadés, aussi bien l'un que l'autre, que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait éduquer, mais on a aussi passé par là parfois. Par contre, on n'a jamais utilisé la violence physique, puisqu'on a dit d'emblée qu'il faut savoir jusqu'où on veut aller et où on veut s'arrêter. Parce que si on décide de ne jamais utiliser la violence physique et qu'on craque, eh bien, on pourra éventuellement donner une fessée ou une claque. Lorsqu'on utilise la violence physique tous les jours et qu'on craque, eh bien, je ne sais pas ce qui reste, mais je crains qu'il ne reste plus qu'à jeter l'enfant par la fenêtre. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus pénible. En fait, ce qu'il serait utile en termes éducationnels, de manière générale, à faire passer comme message dans la société, c'est que finalement, on essaye de ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et lorsqu'on arrive à faire passer ce message, la société se porte nettement mieux.
Alors après ces aveux d'un papa, je ne sais pas si vous avez déjà quelques réactions.
Alors, je ne suis pas spécial, je suis criminologue et juriste, je ne suis pas psychologue de l'enfant. Donc est-ce que c'est possible ou pas? Finalement, la seule expérience que j'en ai, c'est les deux enfants que j'ai à la maison. Et je pense que oui, c'est possible. Mais j'ai aussi vu des différences entre les modes éducationnels de mes deux enfants, puisque... Vous voyez, les enfants, quand ils grandissent, à un certain âge, ils ont une négation. Et puis ils viennent, et puis ils s'approchent des plaques chaudes, et puis ils nous regardent, et puis ils disent non, ou bien pas, ou je sais pas. Et effectivement, la négation, la première négation de mon premier enfant, c'était pas. Et pourquoi est-ce que c'était pas? C'est parce que jusque-là, on lui avait dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que, etc. Puis on lui expliquait. Et on lui expliquait aussi ce qu'il fallait donc faire. Donc pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais le pendant, c'est comment est-ce qu'il faut agir positivement. Le deuxième enfant, sa première négation était non. Eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le premier, il avait 2 ans quand le deuxième est né, et puis que il a fallu dire non, surtout pas. Donc, et c'est clair qu'on a moins discuté avec le second qu'avec le premier. Et ce sont deux enfants très différents aujourd'hui, et on pourrait imaginer que ça vienne de là. Alors oui, je pense qu'on peut discuter avec des enfants, même à l'âge de 2 ans. Enfin, dès qu'une interaction se fait, on peut discuter avec eux, et l'interaction, elle se fait très très tôt. Et puis, ils n'ont pas forcément besoin de participer à la discussion verbalement pour qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses, même s'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Hein, souvent, ils pleurent et on ne sait pas pourquoi.
Je voudrais peut-être revenir sur la question des effets, maintenant, que la violence peut induire sur l'enfant. René Cluzel.
Oui, alors, si on avait, et si je pouvais aujourd'hui ou ce soir vous dire que nous avons aujourd'hui, ce soir, ici, depuis quelques années, la possibilité de dire très clairement ce que sont les effets de l'utilisation du recours à la violence envers les enfants. Je rappelle que le recours à la violence ne se fait pas qu'en famille. Il se fait aussi sur les préaux d'école. Il se fait entre enfants, il se fait entre voisins, il se fait plus globalement dans notre société, dans le parcours que chacun a à vivre. Il y a des formes de violence. La question que vous posez en disant les effets, eh bien, on n'a pas réussi à totalement résoudre cette question pour une raison relativement simple. C'est qu'il est très très difficile de montrer la causalité entre une action qui se déroule à un moment de la vie, par exemple durant la petite enfance, et puis les conséquences qu'on a plus tard. Alors André Kuhn disait un certain nombre de choses qui me semblent assez importantes, qu'on pourrait peut-être relever. On établit de mieux en mieux des liens entre la violence, la maltraitance qu'ont subi les enfants, mais de manière, qu'on soit clair quand même, de manière répétée, qui a été dénoncée, qui a été vue, qu'on a pu repérer. Ces effets-là, on arrive à les retrouver en partie lorsque la personne est devenue adulte. On le fait comment ? On essaye de comprendre comment, par exemple, ont vécu, quelle a été la trajectoire des personnes qui, par exemple, ont un certain type de comportement. J'y reviendrai tout à l'heure pour être plus explicite sur ce que je dis ici. Donc l'idée, c'est d'essayer de tirer un lien, une causalité, un lien de causalité entre une situation vécue dans l'enfance et puis le produit de cette situation plus tard dans la vie, 20 ans plus tard, ou 18 ans, 15 ans plus tard. Comprenez bien que c'est extrêmement difficile, et chaque fois qu'on essaye de faire des travaux de ce type, même avec des parcours d'enfants qui ont subi des maltraitances extrêmement fortes, par exemple des abus sexuels, où là on a véritablement une violence qui était avérée, eh bien c'est très très difficile de montrer, par exemple, des liens qui sont d'abord systématiques, c'est-à-dire que à chaque atteinte, par exemple, à l'intégrité corporelle d'un enfant, sous forme de violence ou d'autre, on a telle réaction plus tard dans la vie. Donc on a simplement, probablement, on a des présomptions. On a simplement des choses qui se passent, on ne sait pas très bien. Il y a l'interaction du caractère de l'enfant, c'est-à-dire que certains enfants peuvent s'endurcir, certains peuvent avoir des comportements ou des réactions tout à fait positives, dans le sens où ils sont stimulés par ça, ils savent prendre de la distance, former leur caractère. D'autres vont avoir des comportements, alors ceux-là que je décrivais, qu'on tente aujourd'hui de retrouver, des comportements de renfermement sur eux-mêmes, des comportements d'asocialité, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des comportements très peu compatibles avec ceux de leur entourage. On a des comportements beaucoup plus importants, beaucoup plus violents aussi. C'est toutes les addictions, mais c'est aussi donc addiction sous forme de prise excessive d'alcool, de drogue, de produits donc toxiques pour le corps, des comportements violents à l'égard des autres, mais également des comportements violents à l'égard de soi-même. C'est-à-dire, par exemple, des atteintes à sa propre vie, les tentatives de suicide. On a marqué quelques traits, mais encore une fois, établir un lien de causalité effectif et fort, ça, je pense qu'on est encore assez loin d'y parvenir, tout simplement parce que méthodologiquement, on n'arrivera pas à le faire.
André Kuhn, on a relevé le terme de votre préopinant, des enfants stimulés parfois. Comment vous l'entendez, ça ?
Stimulé, il a aussi parlé de l'enfant qui s'endurcit. Alors évidemment, quand on s'endurcit, c'est pas forcément très bon. C'est pas forcément très bon dans le sens où effectivement on est stimulé à répéter probablement un certain nombre de choses que l'on a apprises lorsqu'on était enfant, voire adulte. Hein. Les adultes continuent à apprendre, simplement c'est plus lent. Hein. Il y a moins de choses qui entrent. Enfin, les enfants sont des éponges, les adultes beaucoup moins. Mais j'aimerais revenir à ce propos sur ces fameux modes de résolution de conflits. Hein. Plus une personne aura de modes de résolution de conflits, plus elle arrivera à faire le choix, le tri entre ces différentes manières qu'elle connaît de résoudre un conflit lorsqu'elle sera face à un conflit un jour ou l'autre. Et celui qui ne connaît que le mode violent parce qu'il a vu des assiettes voler durant toute son enfance entre sa maman et son papa, eh bien, il n'aura pas d'autre moyen que la violence pour résoudre son propre conflit. Celui qui aura appris d'autres modes de résolution de conflit aura un choix entre les différents modes et il prendra celui qui lui semble aller de soi ou bien qui lui semble être meilleur que l'autre. Et quand Suzette Sandeau disait tout à l'heure que sa fille a fini par faire de la théologie malgré le fait qu'elle ait pris qu'elle ait de temps en temps été fessée. Petite fessée, j'ai bien compris. Non, mais ça paraît, il n'y a pas de contradiction, hein, il y a juste que c'est une personne qui n'a pas appris qu'un seul mode de résolution de conflit. Hein. Ce n'est pas parce qu'on apprend celui-là qu'on est perdu. Hein. C'est juste que celui-là ne sert pas forcément à grand-chose dans la vie après. Pour autant qu'on a appris d'autres modes de résolution de conflits. Et j'ai encore une expérience récente avec l'un de mes enfants qui est rentré à la maison et qui voulait faire un conseil de famille. Un conseil de famille, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Eh bien, ils ont appris à l'école, hein, puisqu'ils ont aujourd'hui à l'école, on a des médiateurs, on a des intervenants sociaux, chose qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années dans les écoles. Eh bien, aujourd'hui, les enfants apprennent à l'école des modes de résolution de conflits amiables ou non violents, en tout cas, que nous n'avons pas appris. Donc, finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans le sens où elle connaît, elle sait, elle a intégré un certain nombre de choses que nous n'avions même pas l'idée qu'elles existaient.
Suzette Sandeau, je vous ai vu, vous voulez réagir.
Oui, en fait, sur plusieurs points, si vous permettez, parce que je crois qu'il faut être attentif à ne pas brouiller les problèmes. Hein. Le problème que vous avez abordé dans votre thèse, si je ne fais erreur, c'est le problème du droit de correction. Autrement dit, la possibilité, le cas échéant, de recourir à une certaine violence, mais encore une fois, personne de bon sens dans cette salle ni autour de cette table, après tout on est même de bon sens de ce côté, ne défendrait l'idée que la violence qui fait mal, qui a des conséquences sur la santé de l'enfant est une bonne manière de correction. Le problème que vous évoquiez était de savoir si, par rapport à l'éducation de l'enfant dont les parents sont seuls vraiment investis de par la loi, il y avait lieu ou il n'y avait pas lieu d'interdire le recours en fait à la correction physique, le cas échéant. Et je crois que si on ne pose pas bien le problème, on va très vite partir dans toutes sortes de directions, parce qu'il est évident que l'enfant qui voit, vous évoquiez ceci tout à l'heure, monsieur, à juste titre, ses parents en train de se disputer, de se taper dessus, de jeter des assiettes, etc., c'est pas par rapport à son éducation à lui, c'est un environnement catastrophique et qui fait mal au cœur, mais ça n'est pas le problème direct de l'éducation. Alors que c'était celui que vous évoquiez. Alors ce que je voudrais savoir, c'est si ce soir, on se concentre sur la question de l'éducation donnée à l'enfant, c'est-à-dire de l'enseignement à l'enfant, de la manière de se conduire dans la société, parce qu'il y a des règles, et des règles qu'on ne doit pas enfreindre, et on sait bien que s'il n'y a pas des règles qui sont posées, on déclenche aussi la violence, parce qu'il n'y a rien de plus violent que l'anarchie. Ou bien est-ce qu'alors on se pose devant la problématique générale de la violence dans la société et de la manière dont elle est entretenue? Moi, j'aimerais bien qu'on soit très précis sur le problème abordé. Je ne sais pas si peut-être Madame Deluz aurait une précision à apporter.
Oui, ben là, c'est vrai, c'est sûr que moi, dans ma thèse, je me suis limitée donc, au droit de correction. Donc physique, est-ce déjà à savoir qui avait ce droit de correction, et puis ensuite les titulaires de ce droit de correction, où vont leurs limites. Et effectivement, dans le cadre, donc ça restreignait au cadre familial, et de savoir est-ce que les parents, dans le cadre de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, peuvent utiliser des punitions physiques sur leurs enfants. Mais alors, c'est vrai que je ne sais pas jusqu'où vous voulez étendre le débat. C'est certain qu'ensuite, si on parle de maltraitance ou de violence contre les enfants, c'est beaucoup plus large, c'est sûr.
On va peut-être aussi poser la question au public. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir à une question. Oui, monsieur.
Oui, disons, en effet, comme Madame Sandeau, je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont un peu emmêlées dans le débat, mais il y a en tout cas une question qui m'intéresse particulièrement.
Il y a une question qui m'intéresse, c'est dès le moment où on interdit, on prévoit une sanction. Et par conséquent, moi j'aimerais glisser sur la question, est-ce qu'on est prêt à entrer en matière dans une démarche qui consisterait à faire intervenir la loi, la police, la justice chez un parent qui aura corrigé son enfant à un degré qui sera plus ou moins proche de la limite, mais que quelqu'un, un voisin ou qui d'autre, aura considéré qu'il était déjà trop loin. Parce que est-ce qu'on n'entre pas justement là dans une démarche là aussi encore aussi plutôt malsaine, c'est-à-dire que je en tant que parent, je prendrais en tout cas très très mal, je considérerais ça comme une violence envers mon rôle de parent que quelqu'un d'extérieur, le juge, le policier, vienne intervenir dans mon mode d'éducation. Et à ce titre-là, je questionne très fermement la légitimité d'interdire toute violence, quelle qu'elle soit, avec une définition extrêmement large, c'est-à-dire que même la petite fessée serait considérée comme interdite et passible d'une sanction.
Alors, le premier élément de réponse, c'est que je ne pense pas, et il y a quand même quelques expérimentations, en tout cas, pas dans le domaine de l'éducation, mais dans le domaine du droit pénal, qui le démontrent, il n'est pas forcément nécessaire d'ajouter une sanction aux interdits. On peut interdire quelque chose sans forcément sanctionner le contrevenant. Il y a d'autres modes d'imposer quelque chose que l'on voudrait que les gens fassent sans avoir besoin d'interdire son contraire. Hein, donc on voit qu'il y a, enfin, il y a un certain nombre d'éléments, de moyens de prévention qui permettent d'éviter certains comportements plutôt que d'ensuite avoir besoin de les sanctionner. Donc il est possible d'éviter un certain nombre de choses sans que la sanction soit nécessaire. Mais je n'aimerais pas revenir sur le débat d'il y a quelques semaines, puisque c'était en fait ce dont on parlait quand on parlait du droit pénal en tant que mode de régulation de la société, et où je défendais déjà la position qu'une société sans droit pénal était aussi possible. Voilà. Maintenant, vous posiez la question de savoir est-ce qu'on était prêt à faire intervenir la justice ou la police dans un mode éducationnel qui serait considéré comme trop violent. Eh bien, ça va de soi. Ça va de soi que lorsque il y a des abus, eh bien, la société d'aujourd'hui, quand je dis ça va de soi, évidemment, je me contredis par rapport à l'idée qu'on pourrait en faire autrement, mais la société d'aujourd'hui envisage une intervention d'un organe de contrôle qui s'appelle la police. Et c'est vrai que lorsqu'un homme bat sa femme, même si c'est pour l'éduquer, eh bien, la police intervient. C'est normal, c'est normal. Et lorsque je frappe mon enfant jusqu'au sang, eh bien, il est normal que la police intervienne. Alors, le problème est de savoir jusqu'où la police interviendra et depuis où elle n'interviendra plus. Je crois que c'est ça la question. La question, c'est pas est-ce qu'elle peut intervenir ou pas. Oui, elle peut intervenir dans notre société, puisqu'on a décidé que c'était elle l'organe de régulation, et elle interviendra. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque il existe une étude sur les violences, alors dans le cadre de l'éducation, les violences sur les enfants dans le cadre de l'éducation, une étude internationale où on a mesuré par des indicateurs en questionnant des enfants et leurs parents, on a mesuré le taux de violence sur les enfants, le taux de correction finalement qu'il y a dans les ménages de ces quelques pays. Il y avait cinq pays. Et on a pu observer que La Suède, dans le pays dans lequel il y a une interdiction absolue de violence physique envers les enfants, eh bien, il y a beaucoup moins de violence. Alors, non seulement il y a l'interdiction, mais les gens le savent. Hein, donc, il y a une loi qui a été largement rendue publique. Eh bien, il y a beaucoup moins de violence envers les enfants que dans d'autres pays. Et le pays qui est en queue de classement dans cette étude de 5 pays, la Suisse n'en faisait pas partie, c'était la France, pays dans lequel il n'y a pas d'interdiction et dans lequel il n'y a pas non plus de sensibilisation contre la violence chez les enfants. Et donc, le nombre d'actes violents dépend effectivement de la législation qui existe. Et en Suède, on n'intervient pas plus souvent qu'en France. Il y a juste une intégration qui s'est faite, comme nous avons intégré qu'on ne peut pas battre sa femme, qu'on ne peut pas battre son enfant avec un ceinturon. Enfin, on a intégré un certain nombre de choses. Alors, je dirais que, pour revenir à la réponse à votre question, c'est oui, l'intervention policière se fera lorsqu'on exagérera. Le problème est de savoir où est-ce qu'on exagère. Et en Suède, on exagère très vite. Et en France, on exagère beaucoup moins vite. Et ça a une conséquence sur le nombre de violences perpétrées envers les enfants.
Alors, René Cluzel, est-ce que vous constatez aussi peut-être un décalage entre la sanction et la violence et la sanction ?
Alors, je pense que effectivement, le recours à une sanction, qu'elle soit pénale ou d'autre nature, elle peut être prévue ou pas. Je crois que ce que dit André Kuhn est assez fondé pour qu'on lui fasse confiance sur ce qu'il enseigne et travaille depuis de nombreuses années, même si il a de la peine à convaincre. Oui, quand même.
Ça dépend du public.
Voilà, au-delà de ça, il me semble qu'il faudrait... Je comprends bien l'intervention de Mme Sandeau visant à resserrer le débat autour... disons, de l'éducation et l'utilisation de la violence autour ou dans la famille ou dans le sein de la famille restreinte. Je pense que c'est juste, même s'il faut qu'on évoque quand même la violence de façon générale, parce qu'elle a tendance, et c'est ce que dit André Kuhn indirectement, elle a tendance quand même à marquer le cadre dans lequel on éduque. Pourquoi est-ce qu'en Suède, on a moins recours à la violence physique qu'on en a plus en France ? C'est aussi parce que nous avons affaire non seulement à des lois qui sont inscrites, mais si ces lois ont pu être inscrites dans les textes législatifs, c'est que la société s'y prêtait. Donc il faut quand même voir quand même les choses au départ. En Suède, aujourd'hui, on a une société qui réagit, qui agit très différemment. Le contrôle social, c'est bien de ça qu'il s'agit, le contrôle des voisins, le contrôle général, ce contrôle agit de manière manifestement beaucoup plus ferme et efficace qu'en France. Voilà pourquoi on ne va pas entrer en matière sur un débat culturel. Il se trouve simplement qu'il y a des sociétés différentes. Donc maintenant, la question, c'est quels moyens est-ce qu'on s'est donné en Suède pour permettre ceci ? Et j'aimerais quand même aborder un aspect qui était souligné par l'intervention de la première question et qu'on n'a peut-être pas suffisamment repris. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a recours à la violence quand on est parent ? André Kuhn nous a dit parce qu'on perd son pouvoir. Oui, je crois qu'il a raison. Le recours à la violence, c'est une forme, on le sait en tout cas en sciences politiques, le recours à la violence est une forme d'aveu de perte de pouvoir. Et donc, très manifestement, les parents qui ont recours à la violence perdent non ont l'impression de ne pas avoir les moyens de faire face aux exigences que la société a en face d'eux. On attend d'eux qu'ils soient des éducateurs. Et le problème qu'on a, et la question le soulignait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas comment réussir une éducation ? Quand l'enfant, petit, moyen, un petit peu plus grand, ne suit pas, n'obéit pas, quand de façon réitérée, il ne faut pas être angélique, l'enfant ne veut pas suivre ce que les parents, qui sont bien sûr des grands sages, voudraient leur faire faire. Hein, quels moyens donne-t-on aux familles ? Par ailleurs, je voudrais quand même dire que nos familles, elles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Suède. Nous avons en Suède un service à la société qui garantit tout de même une commodité pour éduquer ses enfants de la manière peut-être la plus adéquate. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs en Europe, on ait autant mis l'accent sur ce soutien aux familles. Et donc, il ne s'agit pas par là, dans mon intervention, de dire qu'on doit excuser le recours à la violence, il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, je pense qu'on va avoir peut-être très rapidement, des jugements trop rapides pour condamner toute forme de recours à la violence. Alors, encore une fois, on parle d'une violence qui est dans le genre de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une petite fessée. Vraiment, l'excès d'humeur et non pas une manière d'éduquer les enfants. Et donc là, on voit bien la limite qu'appelait de ses voeux André en disant il faut quand même savoir jusqu'où et à partir de quand est-ce qu'on va appeler manifestement des gens extérieurs, la police ou d'autres, à intervenir. Ça peut être des éducateurs sociaux, on le fait dans nos sociétés. Aujourd'hui, on fait venir la police, puis après, on fait venir des éducateurs qui viennent vous dire comment il faut éduquer, eux qui n'ont pas d'enfants. Bon. Vous comprenez ? À partir de là, on voit bien que ce débat est difficile dans la mesure où on a affaire à une société qui n'est pas totalement la nôtre, et nous sommes dans cette société, qui n'est pas toujours très conséquente envers elle-même. Et donc, je plaide ici pour, non pas la tolérance face à la violence, mais une réflexion sur ce qu'est ce recours et pourquoi les familles ont besoin, certaines familles, ont besoin de recourir à un certain moment à des actes de violence. Certes, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec André Kuhn, toute violence n'est pas bonne à prendre. Et donc, il faut quand même s'interroger sur pourquoi certaines familles ont-elles besoin, certaines familles tout à fait normales, traditionnelles, parce qu'on fustige très vite certains types de familles, celles qui sont recomposées, celles qui viennent d'horizons où on a des pratiques sauvages déjà à domicile. C'est pas comme ça. La violence, en tout cas ce qu'on peut voir, l'utilisation de la violence dans la famille, on ne parle pas d'une violence telle que celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'utilisation de la violence marque toutes les sphères sociales, elle marque également toutes les catégories sociales.
Si je peux me permettre peut-être de revenir aussi sur la question de monsieur, donc est-ce qu'on est prêt à accepter que la police intervienne ? C'est vrai qu'on pense ici beaucoup au volet pénal, donc voie de fait, mais on pourrait aussi imaginer dans le code civil, une disposition qui, dans le code civil, dirait voilà, l'éducation se fait sans violence. Et à ce moment-là, on n'aurait pas, en conséquence, une amende ou je ne sais quelle sanction pénale. Et c'est vrai que si on imaginait une sanction civile, alors là, forcément, ce serait en cas de dénonciation, disons, si un cas de maltraitance ou de correction abusive devait arriver aux oreilles de l'autorité qui serait compétente, certainement que se mettrait en place aussi tout un réseau d'assistants sociaux, de services de protection de la jeunesse, des choses comme ça. Mais là, parce que vous parliez de la police, donc là, ce serait une façon, en tout cas législative, d'éviter l'intervention de la police. Il faut aussi toujours penser qu'il y a le volet pénal, bien sûr, pour sanctionner, mais il y a aussi le volet civil qui est peut-être plus incitatif. Et si on parle justement de la Suède, qui a fait beaucoup de publicité, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, pour ces dispositions, donc interdisant la violence pour les enfants. En Suisse, on pourrait aussi imaginer dans le code civil l'introduction d'une disposition qui pourrait prévoir que l'éducation se fait sans violence et que cette disposition-là donc, soit rendue publique par le biais d'encarts publicitaires, de spots à la télévision, je ne sais pas quel moyen on pourrait imaginer, mais actuellement, c'est plutôt, j'ai l'impression, dans ce sens-là qu'on va, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives parlementaires, il y en a une qui est encore en cours, pour modifier la loi en Suisse, pour interdire les punitions corporelles, et c'est plutôt dans ce sens-là, il me semble, que ça va. Il y a aussi des groupes de travail, notamment relatifs à la Convention sur les droits de l'enfant, que donc, la Suisse a ratifié, merci, cette convention, la Convention sur les droits de l'enfant. Et dans ce cadre-là, il y a des recommandations qui ont été faites par d'autres pays à la Suisse, et notamment la recommandation pour une meilleure protection des enfants contre les châtiments corporels. Et dans cette réflexion-là, c'est aussi plutôt cet angle-là qui est favorisé, donc l'angle civil, et ensuite de faire une forte publicité sur ces dispositions qui seraient alors incitatives en disant qu'il faut élever les enfants sans violence.
C'est justement moi aussi, il y a des questions. Suzette Sandeau, vous avez été conseillère nationale. Il y avait des débats, j'imagine, à la coupole fédérale sur le sujet.
Non. Pas du tout, ça n'était pas à la mode à ce moment-là. On avait, il faut dire, un certain nombre d'autres préoccupations pendant que j'y étais. C'était l'affaire des fonds dormants, donc vous voyez qu'on avait d'autres préoccupations. Mais revenons, c'est intéressant, à l'idée éventuellement de mettre dans le code que l'éducation doit se faire sans violence. Ça implique évidemment qu'on définisse la violence, donc il ne faut pas élever la voix. Est-ce que si on dit, mais enfin maintenant, non, tu arrêtes, est-ce que c'est de la violence? Et puis quelquefois, c'est vrai que il arrive qu'on dise maintenant non, tu arrêtes, mais sans taper le gosse. Hein, on dit non, tu arrêtes parce qu'on a une table devant soi. Non, tu arrêtes. Est-ce que c'est de la violence? J'entends. Moi, je me demande quelquefois si on n'a pas perdu un tout petit peu de bon sens dans une certaine catégorie de démarche par rapport à l'éducation de l'enfant. Hein, on est bien d'accord. Parce qu'il faut reconnaître que le grand mal de départ remonte à la théorie qui interdisait de dire non à l'enfant parce que ça allait le traumatiser. Et comment est-ce qu'on introduit ce qui est totalement normal, le non ou pas, enfin j'entends ça, c'est encore une nuance peut-être sémantique, pour montrer à l'enfant que là, il y a une règle et qu'il ne la franchit pas. Et c'est vrai qu'à une année et demie ou deux ans, quand l'enfant a envie vite de jeter par terre ceci ou cela, ce qui est tout à fait normal. Quand il est dans sa chaise, il y a un jeu, il prend son petit jouet, il le jette par terre, puis on le lui ramasse, puis il le rejette par terre. Donc très logiquement, quand il va vers une table sur laquelle il y a éventuellement un joli petit sac, on ne doit jamais laisser de sac sur une table à la hauteur d'un enfant quand on a des enfants en bas âge. Mais il arrive qu'on en ait quand même un, ou juste qu'on soit en visite chez quelqu'un qui en a un, eh ben on va lui dire non. Et puis il faut qu'il comprenne. Et si par hasard il ne comprenait pas, on va peut-être dire non. Et peut-être qu'à un moment on dira maintenant non, tu ne touches pas ça. Moi j'aimerais bien savoir comment vous faites éventuellement pour éduquer, enfin pour manifester qu'il y a un moment où il y a une règle et qu'il ne s'agit pas de la franchir. Et encore une fois, ce sont des problèmes tout à fait basiques. Les grandes questions, la violence qui va nuire à l'enfant, qui va laisser des marques, la violence de la séquestration, que sais-je, mais pas une personne de bon sens, hein, je dis bien de bon sens, ne peut considérer cela comme une forme d'éducation. Mais jusqu'où est-ce que vraiment, si on élève une fois la voix, on est déjà passible de déclencher chez son enfant, quand il sera adulte, des réactions violentes? Moi, j'en suis à me demander si on ne ferait pas mieux d'arrêter d'avoir des enfants.
René Cluzel, alors est-ce qu'il y a un relâchement, vous le constatez aussi, dans l'éducation, quelque part?
La difficulté que souligne Mme Sandeau, c'est qu'on n'a pas de bonne manière d'éduquer, d'une manière dont on est sûr qu'elle donne des résultats évidents qui sont conformes à ce qu'on attend. On n'a pas affaire à des clones d'enfants qui sont les mêmes. Ils ont des réactions, les enfants sont aussi à notre image, ils sont à l'image aussi de l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Donc tout ça fait des diversités quand même par rapport à l'éducation, qu'il est difficile d'enfermer dans une petite boîte en disant c'est comme ça. Le non, le pas, la tape sur la main quand l'enfant met la main, juste avant que l'enfant mette la main sur la plaque chaude, je pense qu'il y a quand même effectivement un recours au bon sens. On ne va pas laisser se brûler. On va quand même retirer. Alors, c'est un acte violent. Quand on le retire au dernier moment, parce qu'on voit que ça se passe, il faut intervenir. Et sa propre peur, on élève la voix en disant « tu ne feras plus jamais ça !» Je ne vois pas très bien comment on pourrait condamner un tel comportement. Donc, peut-être pas un relâchement, mais une difficulté que les parents ont aujourd'hui de répondre à ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux d'être de bons parents, pour avoir de bons enfants dans une bonne société. Or, vous savez bien que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, le problème, il est là. Je crois qu'il faut effectivement faire preuve de bon sens, mais en même temps, on sait bien que certains sont amenés à dépasser des limites. Et il faut des limites, il faut les inscrire. Je crois qu'encore une fois, le recours à la violence, on en a des marques, on a donné quelques exemples, je ne sais pas d'où André a ses exemples, le ceinturon, nous a-t-il dit, enfin des choses. Bon, l'être humain est très probablement très fertile dans l'invention d'instruments sur lesquels, enfin, on voit des choses assez terribles. Hein, on devrait peut-être pas trop plaisanter là-dessus, mais c'est vrai que face à des situations de ce type, on ne doit pas être tolérant. Ce qui dépasse l'entendement n'est pas acceptable. Et ça, on doit le communiquer clairement. Mais à quel moment est-ce qu'on le fait ? Quand est-ce que, lorsqu'on attend un enfant dans un couple, on vous dit, ben écoutez, voilà, on va vous convoquer, le ministère public, le policier, j'en sais rien, il vous convoque pour vous dire, ben voilà, ce que vous avez le droit de faire ou pas. Moi, en tout cas, on ne me l'a jamais fait, ce coup-là. Donc, où est-ce qu'on transmet cette information ? Je m'arrêterai là.
J'ai vu des réactions dans le public, alors. C'est l'heure des questions.
Pour finir, il était agacé. Et puis j'ai téléphoné justement à... je ne me souviens plus, à l'époque, ça date de 10 ans en arrière, à défense des enfants ou de la violence, voilà. Bref, j'ai eu... Bon, je me souviens plus comment on m'a répondu. Pour finir, j'ai réagi. Une fois, j'ai toqué un peu plus fort. Puis j'ai dit, madame, mais qu'est-ce qui se passe ? Cet enfant, il pleure tout le temps. Et puis, il l'avait dans les bras. Et je l'ai pris dans les bras, cet enfant. Il arrêtait de pleurer. Et au fait, ce qui se passait, c'est que cette dame, elle gardait son enfant dans sa chaise, comment on appelle ces chaises, là, où on les attache. Au fait, il était tout le temps assis là-dedans, attaché. Et puis cet enfant, il avait juste envie qu'on le détache et puis qu'on le pose par terre ou qu'il soit libre, au fait, de ses mouvements. Parce que là, il était conditionné par son siège et puis il ne pouvait pas bouger, quoi. Alors, je me demande si, au fait, ce n'est pas une violence pour les enfants en bas âge, 8 heures d'école, assis pendant 8 heures. Je me demande si ce n'est pas une violence. Ça, c'est une question que je pose à vous, les spécialistes. Et puis, il y a autre chose que je me demande. Est-ce que ça coûterait trop cher à notre société civilisée d'introduire à l'école un cours comme on introduit, par exemple, les maths, la géographie, un cours à la vertu. Parce que je pense que l'être humain est resté, intelligent. Bon, on est intelligent tout plein, on a plein de bouquins et tout, mais un enfant, je ne pense pas que c'est une voiture avec laquelle on lui dit, c'est interdit, vous pouvez y aller. C'est d'après ma petite expérience, quoi. Je veux dire, j'ai pas de... J'ai une enfant aussi, une petite fille. Et puis, il m'est arrivé une fois de lui flanquer une gifle. Mais j'étais malade pendant 2 semaines. Et voilà. Je me demande si ça coûterait effectivement trop cher à notre société civilisée, hautement civilisée, d'introduire un cours à l'école sur la vertu. Parce que, au fin de compte, je crois que ce qu'il faudrait contrôler, c'est surtout nos pulsions. Nous sommes intelligents, mais on ne nous a pas appris, ou bien, on peut aussi l'apprendre par nous-mêmes, en fin de compte. À contrôler ses pulsions. Et je demande aux parents, justement, de contrôler ses pulsions. C'est une école. Moi, je pense que c'est avoir un enfant, c'est une école, c'est un apprentissage à la patience pour les parents. Et s'ils ne sont pas prêts à faire cet apprentissage de la patience, il faut qu'ils achètent un petit ourson.
Alors, Suzette Sando qui parlait de bon sens, hein. on le voit avec cet enfant attaché à son siège. Donc, aider les parents au travers de l'école, on voit que le débat s'élargit inexorablement, c'est une bonne idée, c'est nécessaire. Je ne sais pas qui veut répondre.
Alors, dans la mesure où l'école n'a déjà pas le temps d'enseigner aux enfants ce qui est indispensable qu'elle leur enseigne, je souhaiterais qu'elle n'y ajoute pas encore quelques cours de la psychologie, rapport parent-enfant, si vous permettez que je réponde un peu par une boutade. qu'il y ait, pendant la grossesse, aussi bien qu'il y a des cours éventuellement d'accouchement ou que sais-je, une indication donnée aux parents sur la manière peut-être de gérer la relation parent-enfant au moment de l'éducation, ça c'est une question qu'on pourrait se poser. Notez que je pense quand même qu'il ne faut pas non plus que la société devienne totalement la mère de chacun. Il y a un moment où quand on est adulte, on est adulte. Alors, partir de l'idée qu'a priori les parents ne sauront pas élever leurs enfants, c'est quand même aussi quelque chose d'un peu troublant. Depuis les femmes des cavernes, je dis toujours les femmes de cavernes, c'est mon côté féministe, depuis les femmes des cavernes, après tout, on a commis des erreurs d'éducation et on n'a quand même pas fait que du mal. Donc ce qui me trouble vraiment, c'est cette manière peut-être de rendre catastrophique une fonction qui devrait être une fonction malgré tout relativement naturelle. Mais je mets naturelle entre guillemets parce que l'erreur est aussi naturelle et par conséquent il est légitime de prendre des mesures pour essayer d'éviter les erreurs dont les enfants sont les premiers à souffrir et la société par contre-coup.
On a l'impression qu'en termes d'éducation, la société a pas encore répondu à ces bouleversements socio-économiques, le changement de statut de la femme. C'est un peu l'impression que donne ce débat. Je ne sais pas, André Kuhn, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir parce que j'aurais répondu un petit peu différemment que ce que vient de faire Suzette Sandeau à la question du cours à l'école. Pour deux raisons. Premièrement, parce que plus on apprend de choses, mieux ce sera. Hein, plus on sera éduqué, donc mieux on arrivera à s'en sortir de manière potentiellement non violente dans la société, mais surtout aussi parce que, alors, là, on a quand même un certain nombre de recherches sur le sentiment d'insécurité, hein, les images que les gens se font de ce qui se passe dans la société, tous ces éléments-là remontent souvent, enfin, quand on essaie de savoir comment est-ce qu'on pourrait remédier à un certain nombre de problèmes, on en arrive à l'éducation civique. Et je crois, et je pas sûr qu'on puisse pas se retrouver là. Je crois que des cours d'éducation civique sont des cours très utiles dans le cursus d'un enfant, puisqu'on se rend compte souvent, hein, quand on fait des études sur le sentiment d'insécurité, c'est les gens qui ont aucune connaissance de la société, qui ont le plus peur du crime, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, donc, le cours d'éducation civique permettrait une vie meilleure. Alors que le cours d'éducation civique contienne, entre autres aussi, et je crois que ça va de soi, les bonnes manières de vivre en société, premièrement, pour les enfants, hein, qui n'auraient pas vécu ou entendu parler de ça chez eux à la maison, et surtout pour ces enfants quand ils seront ensuite adultes et qu'ils auront à interagir dans cette société. Je crois que c'est une bonne chose que l'on connaisse un peu mieux la société. Alors, c'est peut-être pas des cours de psychologie mère-enfant hein, que j'envisagerais, mais peut-être plutôt alors de l'éducation civique. Ouais.
D'autres questions dans le public ? Oui, monsieur, peut-être.
Merci, bonsoir. Je m'appelle Eric et je veux répondre à mon ami Luigi qu'à Bienne, il existe des BD d'une association pour jeunesse sans violence qui aide les enfants justement à thématiser ce thème anti-violence. Ça donne des bons exemples pour eux. Les maternelles, les écoles peuvent adhérer aussi à une association qui est informative de la police, qui vendent par des comment est-ce qu'on dit en français inzerat, ils vendent de la publicité donc pour l'association de jeunesse sans violence. Donc tous peuvent adhérer à et c'est régional dans toute la Suisse. Il y a un bureau qui est à Bösch, donc dans Hüneberg, et qui peuvent donc faire une brochure. Construire une brochure et dans chaque commune qui est distribuée dans les banques, dans les communes, etc. Je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître. Côté négatif, c'est que c'est une association qui fait beaucoup d'argent. La police, eux, ils font un petit gueuleton. Mais ceux qui travaillent là-bas, ils font pas mal d'argent. Donc c'est un peu le côté négatif, mais on ne peut pas tout avoir. Un autre exemple, je ne suis pas père de famille, je n'ai pas d'enfants. J'aime beaucoup les enfants, j'espère que j'en aurai un jour. Mais j'ai un père de famille qui m'a montrer un très bon exemple, comment est-ce qu'il a éduqué son enfant. Il a planté un poteau dans le jardin, et à chaque fois que son enfant faisait une bêtise, il plantait un clou, jusqu'à ce que le poteau soit rempli de clous. À l'adolescence, l'enfant a demandé à papa, c'est quoi ce poteau? Je le vois plein de clous. Il dit, ben voilà, tu vois, c'est toutes les bêtises que tu as faites. L'enfant était gêné, il a dit, maman, mince, alors j'ai fait tellement de bêtises, comment je peux faire pour améliorer la situation? Alors le père, il a dit, écoute, voilà, à chaque fois que tu fais une bonne action, j'enlève un clou. L'enfant s'est donné du mal, jusqu'à l'adolescence, il a réussi à enlever tous les clous. Et il a dit à son père, voilà, regarde, maintenant, j'ai réussi à retordre le fil. Et le père a dit, oui, t'as bien fait, je suis très content de toi, continue, mais pense à une chose, c'est que toutes les marques que tu vois, elles ne s'effaceront jamais. Je pense que c'est un bon exemple. Merci.
D'autres questions, réactions ?
Voilà, alors, il y a une chose qu'on oublie toujours de prononcer qui est très, très importante. C'est comme disait Madame Sando, oui, une petite tape sur la table en disant un petit peu fort à son enfant, maintenant tu arrêtes, c'est la manière dont on le fait. C'est si c'est fait avec l'amour ou bien si c'est justement fait, comme le disait tout à l'heure monsieur, avec le vouloir de l'autorité absolue. Alors, je crois qu'on devrait donner peut-être plus de cours sur l'amour, hein, et la manière, la façon dont ça guérit les gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui oublient d'éduquer leurs enfants avec l'amour, mais ils les éduquent avec le matériel. Et ça, je crois que c'est un grand problème de notre société. Hein. On leur donne tout, on leur donne l'argent, on leur donne une belle voiture, on leur donne... les natels déjà tout petits, etc. Et puis, par contre, on ne passe pas du temps avec ses enfants. Hein? Et puis, on a rarement des gestes justement d'amour. Alors, je crois que le problème de notre société, le grand, grand problème, et là où on devrait donner vraiment des cours, c'est comment aimer l'autre. Et je pense que c'est à cette condition que les choses peuvent évoluer. Je vous parle de ça parce que j'aime aussi beaucoup les animaux. J'ai eu 3 chiens. J'ai eu 2 Doberman, un berger allemand. On dit toujours que les Doberman sont des chiens, des sales chiens. Hein. Mais quand on voit comment certains êtres humains éduquent leurs chiens, justement avec la violence et puis avec la non-tolérance, hein, et puis ils veulent justement absolument l'autorité, mais d'une manière tout à fait fausse, eh bien, on s'étonne après qu'il y a des problèmes aussi avec des chiens. Eh bien, moi, je ne m'étonne pas parce que moi, j'ai eu 2 Doberman et jamais, jamais, au grand jamais, ils ont attaqué personne. Mais moi, je les ai éduqués avec l'amour. Essentiellement, l'amour et la patience et la compréhension et l'instruction. Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour s'instruire, que ce soit sur l'éducation des enfants, que ce soit sur l'éducation des animaux, etc. Mais combien se donnent la peine, hein, font un effort vraiment, parce qu'on court après le matériel, il faut avoir la belle voiture, il faut avoir la belle maison, il faut avoir tout ce qu'on peut avoir matériellement, mais l'essentiel, on l'a complètement mis de côté. Alors peut-être qu'en Suède, c'est ça qui se passe, c'est que les enfants, justement, il y a moins de problèmes parce qu'on ne les tape peut-être pas pour tout et pour rien, hein, parce qu'ils nous dérangent dans notre vie quotidienne où on ne fait que courir après l'argent.
Voilà, je pose la question à nos experts. Est-ce que ce qui pose pas problème, c'est finalement cette éducation devenue, d'après madame, par trop matériel ? Je ne sais pas qui veut réagir.
Peut-être juste pour répondre un petit peu. C'est vrai que... Je ne sais pas si, par rapport aux chiens, forcément, je m'y connais pour un bien, mais c'est vrai que par rapport aux enfants, vous parlez d'amour, d'éducation basée sur l'amour, sur le bon sens. On est souvent autour de cette notion de bon sens. C'est très juste. Après, il faut savoir aussi que les gens n'ont pas, comme pour beaucoup de choses dont on a parlé ce soir, n'ont pas les mêmes définitions de ces termes-là. Et certaines personnes qui peut-être vont donner des claques à leurs enfants vont vous dire que forcément, leurs enfants, ils les aiment. Et que c'est peut-être aussi... pour eux une façon de se dire, bon ben voilà, je veux que par amour pour mon enfant, je veux qu'il ait une bonne éducation. Et alors, c'est peut-être sa manière à lui de mettre cette éducation en œuvre. Donc c'est juste peut-être une manière un petit peu de développer l'idée. Mais votre idée à vous, donc forcément d'amour et puis de bons sentiments par rapport à l'enfant et dans son éducation, ça c'est évident que c'est l'objectif, ce serait la panacée si on veut bien. Mais il faut toujours être conscient que malgré toutes les bonnes intentions et tous ces termes qu'on emploie, chacun aura sa définition et sa manière de la mettre en œuvre. Et c'est là, finalement, on tourne toujours autour de cette question-là. C'est là que se posent les questions fondamentales. Quelles sont les définitions qu'on donne à tous ces termes?
Des réactions, d'autres questions, ou bien peut-être que vous voulez développer l'idée.
Juste peut-être réintervenir là-dessus. Je crois qu'en effet, vous posez la question peut-être en essayant de reformuler différemment l'espace qu'on laisse aux enfants. Je crois que vous avez raison. Nous avons probablement choisi une manière de vivre en société en privilégiant des apports ou les apports du matériel. Dans ce sens-là, ça fait partie de ce qu'est une partie de la conquête que nous pensons avoir faite dans notre société. On s'entoure de beaucoup de choses matérielles. Alors, comment réagissent les enfants là au milieu et comment réagir par rapport, par exemple, à des aspects qui sont très liés à l'éducation, c'est-à-dire les enfants... Ça arrive notamment que les miens, ils me posent des questions en me disant « Mais pourquoi on n'a pas ça ? Pourquoi on n'a pas ça ? Pourquoi ?» C'est vrai, l'espace qu'on doit laisser à ses enfants, ce n'est pas une chose facile parce qu'il y a un regard de la société. Les enfants vivent aussi en classe, ils vivent des choses parfois difficiles aussi en classe. Tout ça fait partie d'un ensemble, encore une fois. Et je crois que vous avez raison de poser la question de la manière dont... Enfin, pourquoi choisit-on de faire des enfants quand on choisit avec quel espace est-ce qu'on choisit de vouloir les éduquer? Quelles priorités on laisse? C'est vrai que ce que j'évoquais tout à l'heure, très rapidement, mais sans vouloir élargir trop le débat, des familles n'ont pas toujours les moyens matériels de, aujourd'hui, répondre non pas à une éducation, mais aux pressions que subissent aussi leurs enfants. Aller en classe et de ne pas avoir, je ne vais pas entrer dans le nom de marque particulière, mais ne pas avoir le dernier produit est parfois ressenti par les enfants extrêmement durement. Et très curieusement, une recherche qui avait été faite à Genève, qui avait été commanditée par le Grand Conseil, montrait la difficulté que certaines familles avaient à faire face à ce type de choses, qui rendent la tension à l'intérieur de la famille très forte et qui peut déclencher des éléments relativement violents qui dépassent l'entendement des parents. Et ça, je crois que c'est vrai que ça fait partie du débat de façon générale. Encore une fois, je crois qu'on a parlé de bon sens. On ne devrait pas se laisser aller, surtout avec des petits-enfants. C'est vrai que la confrontation avec les adolescents était encore une autre question. Ces questions se posent probablement encore plus frontalement, mais je vois... déjà petits, lorsque les enfants reviennent de la garderie, qu'ils posent des questions, par exemple, sur le matériel, sur ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, sur ce que leurs camarades ont ou n'ont pas. Là, il y a aussi une hygiène de vie dans les familles qu'on devrait avoir. Mais comment toujours appeler au bon sens les familles en disant, ben voilà, faites au mieux, on ne vous a pas les moyens, on ne vous donne pas le salaire pour, faites au mieux avec ça. Ce n'est pas toujours simple à gérer. Mais encore une fois, je crois que ce que vous dites est juste, et je crois qu'on mettra tout le monde d'accord là autour, quand on choisit de faire des enfants, quand on a des enfants, c'est une richesse extraordinaire, même si ça nous coûte très cher. Vous avez des chiffres qui ont été encore révélés par la télévision romande, si certains suivent encore ces chaînes publiques. Donc des recherches faites par des scientifiques montraient que le coût était le double, hein, on parlait plutôt du million que du demi-million, tout frais confondu, c'est des choix de société. Et on doit montrer, être ferme par rapport à ces choix. Je fais un choix de société, j'ai des enfants, je prends le temps d'être avec eux, je prends le temps de parfaire leur éducation, je me donne les moyens. Ce qui n'est pas toujours simple, c'est des choix de société qui impliquent aussi les parents. C'est ce que j'entendais dans votre intervention.
Monsieur en orange, là, ça fait un moment que vous attendez.
J'aimerais peut-être faire une distinction, même deux distinctions. La première, c'est entre la violence, parce qu'on on a une perte de contrôle. Hein. On est impulsif, et puis on regrette ce qu'on a fait. On le regrette pourquoi ? Parce qu'on est dans une culture, notamment, qui dit que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Donc là, on a une culture qui juge notre perte de contrôle. Ça, c'est comme introduction. Maintenant, je me réfère peut-être à l'analyse de Johann Galtung, le sociologue, qui distingue trois sortes de violences. Je pense que c'est assez utile de voir les choses comme ça. La violence directe, le coup de poing, le coup de fusil, le coup de pied, la plus visible. La violence structurelle, qui est due à des injustices. Les indignés de Wall Street, ils crient contre cette violence structurelle. Hein, ce n'est pas des coups de poing, des coups de feu, des coups de fusil. Enfin, c'est une violence beaucoup plus indirecte, sournoise, mais extrêmement importante. Elle peut amener des centaines de milliers de personnes au chômage. Et puis, vous avez la violence culturelle. Alors, la violence culturelle, c'est justement celle qui empêche qu'on soit très satisfait quand on perd le contrôle. Ou bien c'est celle qui dit couper la tête aux gens, mais non, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça, c'est la culture. Alors, aux États-Unis, on n'a pas la même culture. Bon, maintenant, c'est plutôt avec des piqûres ou avec l'électricité, etc. Mais donc, on voit qu'en Europe, on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis. Bat ta femme si elle ne sait pas pourquoi. Non, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Enfin, ce genre de slogan, il y a quand même des sociétés où les femmes sont plus battues que d'autres. Ça fait partie de la norme de la culture, plus ou moins. Et puis, j'aimerais justement, à ce propos, j'aimerais vous signaler aussi une expérience que j'ai eue. J'ai voyagé il y a quelques années dans un pays pour des raisons professionnelles. J'avais des collègues là-bas. Alors, voilà ce qu'ils m'ont dit. Je n'ai pas pu le vérifier moi-même, mais vivaient depuis longtemps dans le pays. Il y a même un des ressortissants du pays avec qui je parlais. C'était un pays, je préfère ne pas le nommer, et puis il y en a d'autres dans la région qui étaient très semblables. Le chef de l'État, c'était un militaire, et puis tout le monde disait, mais il corrige ses officiers supérieurs à coups de pied. J'étais extrêmement surpris. Puis on dit, mais oui, c'est normal. Le plus fort, il règne par la violence sur le plus faible. Et puis depuis tout petit, les enfants sont habitués. Quand ils se désobéissent, on les bat. Et puis, si vous êtes pris par la police, ils vous battent. Ça va de soi, c'est dans la culture. Et j'étais très frappé et je me suis rendu compte que d'autres pays voisins, d'après les témoignages que j'entendais, puisque j'ai vu sur Internet, que c'était aussi le cas. Et je pense que chez nous, il y a 50, 60 ou un siècle, ça ne devait pas être très, très différent. Et je me souviens aussi de ma mère qui me disait, mon père, donc c'était mon grand-père à moi, mon grand-père paternel, que j'aimais beaucoup, très, très gentil, qui était entrepreneur, mais quand les enfants faisaient du bruit à table, il sortait son maître, il le posait sur la table, tout le monde avait compris, et c'était le silence total. Hein? Mais c'était dans la culture, personne n'avait rien à y redire à l'époque. Donc je pense que cet aspect culturel est extrêmement important. Alors, de savoir si dans le pays dont je vous parlais, le chef de l'État donne des coups de pied à ses officiers parce que quand il était enfant, il a reçu des coups de bâton, je ne peux pas le prouver, mais ça fait partie du mode normal de régulation des conflits. Voilà. Donc je pense que cet aspect culturel, et puis là je dirais aussi peut-être éducationnel, c'est très bien l'éducation civique, mais je pense que si on faisait des jeux de rôle encore, ça serait encore mieux. Et je crois qu'on ne perdrait pas tellement 100 ans, parce que peut-être qu'ensuite, si on est mieux éduqué, on a peut-être moins de frais de police aussi, et moins de frais d'hôpitaux, etc. etc.
D'autres questions ?
Si j'ose reprendre la parole, j'ai lu dans un livre un bon exemple éducatif qui me semble faire bon sens. C'est lorsqu'on reconnaît le bien, quand on vit dans le bien, souvent on ne comprend pas trop pourquoi les autres font le mal. pourquoi pas éduquer les enfants, ce que j'ai lu, ce qui fait du sens. Un enfant qui vit dans une famille qui est équilibrée, aller voir, par exemple, une famille ou une situation life, un à un, de violence, pour qu'il réalise que c'est la violence, qu'il voit, même si ça fait peur, mais qu'il apprenne une fois ce que c'est, et lorsqu'il retournera, quand cet enfant retournera à la maison, il sera content d'avoir une maison en paix.
De violence, voir ce que c'est une ambiance de paix, hein, pour changer sa mentalité. Vous savez, souvent les enfants, ils peuvent aussi apprendre aux parents. Hein, parce qu'il y a des parents, des fois, ils sont plus enfants que leurs enfants. Mais j'en reviens toujours au mot amour. Dans notre société, dans le monde, en général, c'est l'amour qui manque. Hein. C'est pour ça, il n'y a pas de tolérance souvent. Et on veut régler les choses avec la violence parce qu'on veut le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Puis il y a deux, moi je dis qu'il y a deux énergies, la peur et l'amour. Et la peur fait faire des choses terribles aux humains. Peur du manque, peur de plus avoir l'autorité, justement, etc.
On va vraiment vers la paix ce soir, on s'apaise. Suzette Sandeau, vous vouliez réagir?
Oui, peut-être si vous permettez sur deux points. D'une part, la question culturelle qu'évoquait monsieur et qui, je pense, est particulièrement délicate à partir du moment, et c'est tout à fait normal, où on a quand même beaucoup de brassage de population. Comment arriver à, comment dirais-je, à atténuer peut-être ce qui est une tradition, je mets entre guillemets, culturelle qui ne correspond pas forcément à celle du pays dans lequel se trouvent d'autres personnes, et sans avoir l'air, je dirais, de mépriser, de critiquer, de condamner celui qui a une attitude culturelle différente, mais néanmoins en disant ça c'est une catégorie de culture avec laquelle nous ne pouvons pas développer notre propre société parce qu'elle nous fera tomber dans de la violence. Là, il y a, je crois, un problème pour lequel on n'a pas encore de solution, mais qui est incontestablement un des plus préoccupants actuellement par rapport au brassage de population. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer les frontières ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Ne lisez pas autre chose dans mes propos qu'une vraie préoccupation pour laquelle, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de solution, mais peut-être que les spécialistes de la table en ont. Puis juste la question de l'amour. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. La réponse de madame Deluz était aussi tout à fait marquée au coin du bon sens. Certaines attitudes, qui ne sont peut-être pas de bonnes attitudes pédagogiques, sont néanmoins tenues par celui qui les a par amour. Donc on ne peut pas forcément dire que c'est par manque d'amour qu'on commet une erreur éducative. En revanche, et là, alors je vous donne pleinement raison, je pense que nous avons une société qui n'a pas de disponibilité pour l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant implique qu'on pense à lui d'abord et pas à soi d'abord. Et ça, c'est évidemment un point pour lequel notre société n'est pas très au point.
Le temps passe, alors on va encore donner la parole au public.
Oui. Alors écoutez, j'aimerais bien vous dire, c'est vraiment l'amour en premier qui compte pour les enfants, en tout premier. Et vous savez, une petite fessée, alors ça ne les traumatise pas du tout. Expérience faite, j'ai eu 5 enfants à élever parce que ma belle-mère nous les a mis dans les bras dans mon enfance. Eh bien, je vais vous dire, je leur ai donné tout l'amour avec une bonne fessée de temps en temps. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ce n'était pas pour les dominer, mais l'amour que je leur ai donné, alors je leur en ai donné, et puis des bonnes tranches. Et le travail commençait à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup appris par ma cousine qui était à l'université de Genève. Le grand psychologue Piguet disait, les enfants doivent être éduqués entre l'âge de 5 et 6 ans. L'éducation est faite, on ne la fait plus après. Donc après, les fessées oubliées.
On y revient à cette petite fessée, décidément. Alors, quelques réactions.
Je reviendrai peut-être rapidement sur l'intervention de la violence dans les cultures. C'est un vrai problème qu'on voit, notamment par exemple dans les services sociaux, hein, où une partie notable de la population qui est présente dans les services sociaux, dénoncée souvent, doit faire face donc à une violence que les personnes disent avoir importée de chez eux. On a, pas très loin d'ici, hein, dans des sociétés qui ont encore en Europe vécu la violence, on montre aujourd'hui cette violence sur les routes, enfin on montre des choses. C'est vrai qu'il faut faire très attention, c'est un dossier très délicat. Vous avez raison, je pense que la conquête de notre civilisation, c'est la renonciation à la violence. Nous avons des rapports de force qui existent. En principe, on les résout plus ou moins bien, mais on les résout par le dialogue, c'est une partie de la régulation sociale. Ça ne marche pas toujours, il y a parfois nécessité d'avoir recours à d'autres moyens. Mais on a renoncé explicitement à la violence et on a donné la violence symboliquement, on l'a donnée à deux forces. Max Weber disait ça, hein, c'était donc la violence, le recours à la violence légitime qui est le fait de l'État et qui est, dans le fond, délégué à la police. Hein, c'est comme ça qu'on a résolu nos problèmes. Bon, parfois la police s'exagère aussi. On a vu ce genre de choses. Mais on voit bien, dans d'autres civilisations ou dans d'autres cultures, d'autres pays, je ne sais pas si on peut parler de civilisation, on continue à résoudre des problèmes par la violence. Et donc, ces personnes, quand elles viennent ici, elles ont tendance à réagir de la même manière. Ceci dit, le problème n'est pas seulement dans l'importation, si j'ose dire culturelle, c'est bien aussi dans la situation que ces personnes vivent ici. Je ne suis pas sûr que ces gens aient moins d'amour, pour reprendre les termes que j'ai entendus tout à l'heure, face à leurs enfants. C'est qu'on les place aussi dans des situations où ils ne peuvent pas non plus facilement exercer le rôle de parent. Où ils ont l'impression aussi que le regard, parce qu'on parlait tout à l'heure du voisin qui viendrait chez nous, hein, alors probablement parfois avec tout à fait, je pense avec raison, hein, quand on entend un enfant crier tout au long de la journée, quand on voit son parent ou un de ses parents le battre, je crois qu'on a un devoir d'intervention. Ceci dit, ce devoir d'intervention, jusqu'où est-ce qu'il va? Et dans les services sociaux, on est très ennuyé pour donner des leçons, en disant, ben voilà, on éduque comme ça chez nous. Il dit, bon, il y a des règles, mais en même temps, on sait très bien qu'on doit être respectueux de certaines différences. Jusqu'où vont ces différences? C'est un vrai problème qu'on n'arrive pas à résoudre tout simplement avec une théorie en appliquant, en disant, c'est comme ça. La violence qu'on exerce à l'égard de ces populations en disant « si tu continues, on te met en prison », ça a des conséquences terribles aussi sur les enfants, puisque ces enfants vont probablement devoir subir une autre forme de violence où on leur interdira un certain nombre de choses, et notamment de témoigner de comportements que les parents ont à leur égard, avec évidemment je dirais des menaces à peine voilées de rétorsion, enfin de choses de ce type. Donc c'est un débat très difficile parce que aujourd'hui les populations peuvent très vite se déplacer, très vite, c'est-à-dire en 24 heures changer de contexte, se rendre compte que le contexte est différent, qu'on a d'autres moyens, qu'on privilégie d'autres moyens, est une chose difficile. Donc il faut montrer un minimum de tolérance de manière à ce que ces parents puissent rester des parents. Parce que la pire des violences, ce serait de dire, ce qu'on a parfois fait aussi dans ce pays, de dire ces parents-là ne peuvent pas éduquer. On l'a dit parce qu'ils étaient trop pauvres à certains moments, donc pas assez riches, donc ils ne peuvent pas éduquer. On l'a dit aussi parce qu'on pensait que des formes de vie ne permettaient pas une bonne éducation des parents. On a aussi des regards très absolus, hein, sur l'éducation, donc il faut être un tout petit peu respectueux. Je crois qu'on a peu utilisé ce terme, mais on doit être respectueux comme parent de son enfant. Lui laisser de l'espace, c'est ça, respectueux. Avoir de l'amour, c'est aussi du respect. Le recours à la violence, le parent, c'est facile pour lui parce qu'il est fort. Physiquement, tu nous l'as dit tout à l'heure, il est fort physiquement parce qu'il a un rapport de force. Il sait qu'il a un pouvoir quasi absolu sur la personne. On a parlé du rapport homme-femme tout à l'heure. On est aussi parfois dans ce type de tendance. Nous sommes dans une culture qui érige la civilisation, c'est-à-dire le rapport de force vécu différemment. Je crois que c'est ça dont on doit se souvenir.
Merci. André Kuhn, encore peut-être une intervention avant les dernières questions.
Oui, d'accord. Alors, juste pour reprendre l'idée d'importation de violence alors peut-être pas culturelle, parce qu'elle n'est pas forcément culturelle, mais enfin, évidemment, il va de soi qu'une personne qui se développe dans un pays en guerre va évidemment développer elle-même un certain nombre de réactions. Et lorsque ces réactions s'exportent dans un pays qui n'est pas en guerre, va poser un certain nombre de problèmes. C'est quelque chose qu'on appelle en criminologie un effet de brutalisation, c'est-à-dire c'est l'État qui, quand il montre l'exemple, brutalise les personnes qui sont soumises à cet exemple. Mais il ne faut pas aller forcément chercher loin des effets de brutalisation. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe chez nous et dans notre système éducatif. Que font les parents suisses, moyens, lorsqu'ils éduquent leurs enfants et que leurs enfants font une bêtise? Eh bien, il arrive fréquemment qu'un parent enferme son enfant dans sa chambre. Enfermer un enfant dans sa chambre, ça s'appelle de la séquestration. Une séquestration est punissable de 5 ans de privation de liberté en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette norme lorsqu'on commet cette infraction à l'intérieur d'un cercle familial? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes brutalisés par notre propre État qui, lorsque quelqu'un fait une bêtise, on l'enferme dans une prison. Et nous, dans notre microcosme familial, nous reproduisons tout simplement ce qui se passe au niveau étatique. Et nous sommes donc méchamment brutalisés par notre propre société. Et il faut donc effectivement, comme le disait René Knüsel, être très tolérant vis-à-vis de gens qui peuvent effectivement être brutalisés par leur société, parce que nous le sommes aussi.
Alors, puisqu'on est dans le domaine du droit, je passe la parole à une avocate, Estelle Delis.
Juste pour revenir sur ce que le professeur Knüsel a dit, effectivement, faire attention aussi de ne pas dire aux parents qu'ils ne peuvent pas, enfin, qu'ils ne sont pas de bons parents et leur retirer les enfants. C'est vrai qu'en droit suisse, dans le Code civil, il y a des mesures de protection de l'enfant, donc notamment il y a la possibilité de retirer le droit de garde de l'autorité parentale aux parents. Et c'est vrai à ce moment-là que la notion, notamment, de bien de l'enfant entre en ligne de compte. Il y a toujours une pondération qui est faite aussi donc au niveau juridique pour savoir si c'est mieux pour l'enfant, pour le bien de l'enfant, de le retirer ou de le laisser à ses parents, malgré peut-être des éléments qui ne vont pas au sein de la famille. Mais il y a cette notion de bien de l'enfant en droit qui permet justement de pondérer l'intervention et de respecter la proportionnalité dans l'intervention pour ne pas faire plus de mal à l'enfant en essayant de le protéger, mais de faire plus de mal au final quand on le retire à sa famille. Voilà, c'est peut-être une petite précision.
Toute dernière question, alors.
Question, non. Mais pour répondre justement, en faisant le biais à madame et à vous aussi qui avez répondu gentiment, faire le pont entre l'amour et... ce siècle qui a été très rapide en 100 ans, on a fait une évolution extrême parce qu'on en a besoin, on le veut, donc on en tire les conséquences. On connaît qu'il y a beaucoup de peuples et ces peuples, ils ont une foi toute différente et c'est bien parce qu'on s'apprend à se connaître et c'est bien d'avoir des différences, mais pas pour faire la guerre. Non, c'est justement à mesurer un degré, je pense, de patience, d'amour et de bonté, et que le Créateur a ce thermostat en nous pour voir comment est-ce qu'on réagit. Donc, comment est-ce qu'on intègre l'amour du prochain? C'est tout simplement, comme le dit très bien un autre livre, c'est de se circoncire spirituellement. C'est de rejeter l'ignorance. Et ça, on le fait en connaissant mon frère qui est musulman, en connaissant mon frère qui est juif, en connaissant mon frère qui est chrétien, sans que je m'associe à qui que ce soit, à quoi que ce soit, en restant libre et fraternel. Et ça, en lisant la Bible, en lisant le Coran, ou, je le dis, la révélation d'Arès, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a sauvé la vie. Merci.
Beau message d'ouverture. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, je pense qu'on peut remercier Suzette Sando, Estelle Deluz, René Knüsel et André Kuhn, et les applaudir.